faut arrêter la machine. Faut arrêter la machine. Sinon.
Allez, vous allez l'entendre démarrer.
Aujourd'hui, Grenouille vous invite à une soirée exceptionnelle sur les 3-8, en parallèle à la manifestation publique qui a lieu à la friche La Belle de Mai et qui constitue le point d'orgue de la résidence de Nicolas Frise. Une manifestation qui se déploie sur deux temps, deux moments différents, mais indissolublement liés. Un concert, tout d'abord, à 20h30, dans la salle Maintenant, une composition de Nicolas Frise pour chœur d'adultes, chœur d'enfants, groupe vocal et soliste, percussion, violoncelle, clarinette basse, objets sonores et bande magnétique. Nous capterons bien sûr ce concert, mais l'interpréterons à notre façon, en y insérant sons et paroles, ambiance sonore et écho de la poste, autant de reflets de la totalité du travail d'écoute et de création produit par toute l'équipe de Grenouille au cours de ces derniers mois. À 21h45 et jusqu'à minuit, à l'issue de cette exploration musicale et radiophonique, nous vous proposons d'écouter une sélection des 96 émissions quotidiennes maintenant qui ont accompagné les temps forts de cette résidence d'artistes, ainsi que d'autres modules sonores, bien sûr, mais aussi tout ce que l'actualité politique et sociale y a suscité comme écho depuis décembre dernier. Mais tout de suite, la soirée commence avec Écoute, une émission proposée par Nelly Fleischer et Étienne Noiseau, en compagnie de Nicolas Frise. Vous l'aurez compris, il sera question d'écoute, de la perception objective et subjective des sons de notre environnement, de ces objets sonores tout prêts à devenir musique, pour peu qu'on leur prête attention. Tout de suite, on écoute l'écoute.
Bonsoir autour de cette table, Nicolas Frise, Caroline Galmo, Étienne Noiseau, Nelly Fleischer, à la technique Olivier. On va passer quelques minutes ensemble, quelques grandes minutes ensemble pour nous amener dans une soirée que nous allons partager dans différents lieux, dans différentes formes. Nicolas, toi tu seras dans la salle maintenant pour l'expression musicale de ce projet, de ce temps que nous avons passé ensemble à cheminer pendant plusieurs mois. Tu seras au milieu d'un grand espace.
Tout blanc. Oui, avec 500 personnes assises et 60 debout qui chantent, se déplacent, font des sons, des musiciens.
Et puis il y aura un autre espace sonore qui sera celui de la radio. Là, ce seront Étienne, Xavier et Caroline qui seront aux manettes et qui, alors comment on dit, utiliseront, qui revisiteront, qui exploreront les sons que l'on pourra capter comme ça de cette salle maintenant, au milieu de laquelle Nicolas sera, entouré de tout ce monde. Comment on peut qualifier ce que vous allez faire ?
Bah, on peut appeler ça une émission de création autour de cette résidence justement qui a duré ces 14 mois, plus qu'une retransmission de concert qui aurait été un peu peine perdue de voilà, vouloir transposer à la radio, donc dans un seul canal ou voire deux, d'un concert ou d'une représentation qui se fait dans un espace avec des choses qui se passent un petit peu partout. Donc plutôt que de vouloir tenter une mise à plat de tout ça, on va s'inspirer de ce qui se passe en même temps que transmettre des éléments sonores qui ont été produits tout au long de cette résidence à Radio Grenouille.
Donc vous, auditeurs, qui serez derrière votre poste radio, qui l'êtes dès maintenant et qui allez le rester, c'est cette émission de création que vous allez pouvoir entendre. Si jamais vous vous déplacez jusqu'à la Friche Belle de Mai et que vous n'êtes pas dans les 500 privilégiés installé dans la salle maintenant, vous pourrez néanmoins nous rejoindre dans la cartonnerie qui sera aménagée pour la retransmission de cette émission de création. Et ça, c'est encore un autre espace, c'est encore un autre moment, c'est encore une autre façon d'aborder l'écoute. Et ça va être un peu le propos de l'heure qu'on va passer ensemble maintenant. Nicolas, l'écoute, c'est un terrain de jeu à toi. Tu as beaucoup de choses à nous faire partager sur ce thème. C'est ton travail, c'est aussi ta transmission. Est-ce qu'on ancre notre discussion dans la démarche que tu as fait envers les écoles sur la commande de ministères qui ont décidé de mettre l'écoute en avant? D'où est venue cette proposition d'ailleurs?
Elle est venue d'une étude que j'ai faite sur cette question, sur la question du bruit et de l'écoute, de l'environnement sonore urbain, etc. Et parce que les gens vont mal, parce que nous allons mal, parce que nous avons l'impression... On a tout fait pour se rassembler dans les villes, être le plus nombreux possible, et puis maintenant on s'en plaint. Ouais. Parce qu'il y a un individualisme croissant qui voudrait que les gens, finalement, ne supportent pas de vivre ensemble, ne supportent pas d'être entourés des autres qui font leur bruit à eux. Et que, en fait, le bruit est devenu maintenant la première nuisance en France, collectée dans les mairies ou dans les commissariats de police. Donc il y a un mal-être qui est évidemment complètement subjectif et culturel, puisque la France est un des pays les plus silencieux qui soit. En tout cas, elle est en train de le devenir. C'est aussi, ça arrange certaines personnes, effectivement, que nous entrions dans une société du silence et que finalement, peu à peu, nous nous taisions. Mais dans les pays du Sud et dans certains pays, en particulier du tiers-monde, il y a 500 fois plus de niveau sonore parce que les gens vivent ensemble, parce que les choses se mélangent, parce qu'il n'y a pas forcément de vitres, parce qu'il fait chaud, que l'espace public et l'espace privé se mélangent énormément, qu'il se passe beaucoup de choses dans les maisons et dehors, et donc nous sommes dans un, nous nous rapprochons d'une sorte de société du silence, et qui n'est pas du bon côté, enfin qui est du côté de la coercition, de l'individualisme, etc. Bon, donc c'est pas pour résoudre ces questions que les ministères de l'Environnement et de l'Éducation nous ont sollicité, enfin m'ont sollicité. C'était parce que, puisque les gens vont mal avec le bruit, puisqu'il y a des campagnes de sensibilisation au bruit, etc., comment est-ce qu'on peut aider les gens à d'abord accepter les sons, à accepter de vivre ensemble, à accepter de vivre collectivement, et ensuite comment on peut les aider à se défendre parfois dans des situations qui sont finalement pas très normales, et qui effectivement sont objectivement pas normales, et dans lesquelles il faudrait qu'ils progressent. Et en faisant une étude sur ces questions, on s'est rendu compte que les gens souffraient aussi parce qu'ils n'écoutaient pas. Et que c'est quand on n'écoute pas qu'on souffre. Alors on se dit, mais oui, mais j'ai tellement de choses horribles à entendre, je préfère fermer mes oreilles. Ben non, plus on les ferme, plus on souffre.
Donc toi, tu proposes justement de prendre conscience ou reprendre conscience qu'il y a un monde sonore dans lequel on évolue et de voir comment on peut...
C'est-à-dire, l'astuce, ça consiste à se dire, c'est que si par hasard les choses vont si mal, enfin si, en admettant qu'elles aillent mal, imaginons que les choses vont mal, si les choses vont si mal, c'est parce que les gens... C'est parce que les gens ne maîtrisent pas leur bruit, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas leurs émissions. Et donc, de l'autre côté, ils oublient que ce sont les mêmes qui sont émetteurs et récepteurs. Mmh. Et donc, si le récepteur se plaint que tout est devenu n'importe comment, il faut aussi se demander si, quand il devient émetteur, il continue pas de faire n'importe comment, parce qu'il n'écoute pas. Et le postulat, c'est de se dire que si nous nous mettons tous à écouter, nous allons faire attention à ce que nous allons devenir des émetteurs intelligents, et donc forcément des récepteurs heureux. Et que d'abord, on va se mettre à avoir du plaisir de certaines choses dont on a oublié de jouir. Notre capacité d'émotion ne doit jamais s'émousser. Et on va finir par avoir du plaisir dans certaines situations qu'aujourd'hui on laisse passer comme si elles étaient banales alors qu'elles sont extraordinaires. Et par ailleurs, comme on va se mettre à entendre, on va se mettre à s'entendre soi-même et donc à faire attention à ce qu'on fait, à se mettre à goûter de nos sons, de nos gestes, de nos expressions et de notre vie quotidienne. Et du coup, les autres récepteurs vont en goûter aussi.
Alors bon, c'est un programme qui a été fait pour être appliqué en classe, mais je pense qu'il est applicable de la même manière aux adultes, en tous les cas dans l'intention, ça c'est clair. Les adultes n'écoutent pas plus que leurs enfants. D'ailleurs, sur qui les enfants prennent-ils modèle ?
Exactement, c'est la deuxième conséquence de l'étude, c'est que si les enfants n'écoutent pas bien, ils ont du mal à se concentrer, à écouter, c'est parce que, alors je m'excuse pour tous ces gens à qui je m'adresse.
Pour nous,
C'est parce que les enseignants n'écoutent pas. Alors, je parle des enseignants directement, mais aussi parce que les parents n'écoutent pas. Et c'est parce que les enfants grandissent dans un monde où les gens ne s'écoutent pas que les enfants n'arrivent plus à savoir pourquoi il faudrait s'écouter. Et qu'ils ont l'impression que finalement, c'est chacun pour soi. D'ailleurs, nous entrons dans un monde où ça devient de plus en plus chacun pour soi. Et on nous fait bien comprendre que si on veut avoir une place, il faut dégager la place de l'autre. Donc, non, ça ne se passe pas comme ça. C'est pas chacun pour soi. Et il faut commencer par... si les enfants nous voient avec des oreilles tendues, complètement émerveillées, ou faisant attention à nos gestes, ils vont grandir en se disant, c'est comme ça qu'il faut grandir. Mais effectivement, aujourd'hui, c'est pas ce qui se passe. Alors, ce CD dont on va écouter des petits extraits, et tout ce programme sur l'écoute, qui s'appelle Écoute, va être distribué dans 35 000 écoles primaires à partir de la rentrée, à l'attention des enseignants, à qui nous destinons ce programme, en disant, allez, c'est vous qui devez jouir de votre oreille, qui devez goûter de votre ouïe, qui devait être savant, et vous allez voir que les enfants, vous allez emporter les enfants avec vous presque spontanément.
À quel type d'enseignant d'ailleurs?
Primaire.
Mais de, ah oui, donc
tout ce qui est élémentaire, primaire,
professeur des écoles.
Voilà, CP, de CP au CM2. Et on est en train de préparer maintenant un nouveau programme, c'est des CD-ROM pour les collèges.
Alors, petite question, néophyte, on dit souvent, on entend dire que tout ce qui n'est pas mélodie, c'est du bruit.
Bah c'est une espèce de tarte à la crème culturelle qui fait que on a l'impression que la musique c'est cette espèce de référent. Tout ça nous vient de la musique occidentale française, française européenne, on va dire, où la musique c'est Schubert, Bach, Mozart, Beethoven, un petit peu l'opéra. Et puis après, on s'arrête au milieu du siècle, là, du 20e siècle. Et puis tous ces gens qui commencent à manipuler des objets bizarres et à faire des sons bizarres. On considère que la musique n'est pas faite avec des sons, mais avec des instruments. C'est comme si on niait les sons des instruments. Et à partir du moment où vous arrivez avec des sons qui sont pas en plus, dans lesquels il n'y a pas une hauteur émergente. Je ne sais pas si l'auditeur peut... Il faudrait qu'on donne des exemples. Mais par exemple, si je fais ça... Ça s'appelle des bruits parce qu'il n'y a pas de haute, je ne peux pas chanter avec ça. Sauf que, en fait, si,
c'est-à-dire...
et c'est ce qu'ont découvert les pays extra-européens, c'est qu'entre deux morceaux de bois, bon là, ce n'est pas très flagrant, mais il y a une différence de timbre. On sent qu'il y en a un qui est plus clair et l'autre qui est plus sombre. Eh bien, dans plein de pays africains et plein de pays d'Asie, plein de pays d'Amérique du Sud, il suffit de rassembler comme ça des matériaux qui ont des timbres légèrement différents. Et là, on fait des percussions pendant des nuits entières. Et c'est parce que ça chante. Parce qu'entre ça et ça, évidemment, si j'ai le même, c'est beaucoup plus banal. Et pour nous, il n'y a pas encore de hauteur. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une mélodie avec. Mais pour eux, on peut déjà jouer avec ces timbres qui se répondent et qui dialoguent. Et nous, on a été plus loin, parce qu'il y a eu tout le travail de lutherie, on a inventé le piano, on a inventé le violon, on a inventé la flûte à bec. Et on s'est dit, non, 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 la musique, ça se fait qu'avec des mélodies. C'est-à-dire avec des notes. Et on a resserré la musique autour de la notion de mélodie. Et le rock, la pop musique, le jazz, se sont eux aussi embarqués dans cette voie. Alors très rapidement avec le free jazz, avec la musique punk, avec la musique électronique, ces trois musiques qui d'ailleurs en même temps que la musique concrète, en même temps que la musique contemporaine évoluait, qui ont commencé à découvrir le monde des sons et à s'en aller. Mais n'empêche que dans la tête des gens, cette espèce d'énorme package culturel que la musique c'est des notes, ça fonctionne toujours.
On écoute.
Alors moi j'aimerais bien vous emmener faire un voyage en train.
Oui.
Et évidemment, ce voyage n'est pas anodin. Imaginez-vous que à votre insu, ou j'espère que vous allez être attentif, nous allons voyager dans trois trains et qui vont s'enchaîner les uns aux autres. Et je vous demande de bien faire attention. Ces trains n'ont rien à voir les uns avec les autres. C'est de la plage 11.
C'est moi, c'est libre là ?
Ah non, non.
Ah pardon, j'avais pas vu.
T'as trouvé Étienne ?
Oh ben il y a un train, plutôt un train urbain, un métro ou quelque chose comme ça, et puis d'autres trains, oui. Mais,
train de marchandises ?
Alors non, il y a oui effectivement un train de banlieue, un RER,
ouais,
RER. Au début. Après il y a un TGV, donc qui est beaucoup plus lisse, puisque les rails des TGV, comme vous savez, sont joints, donc on n'entend pas le rythme. Ils ont été étudiés pour être joints. Et puis après c'est un train de voyageurs de nuit.
Hein,
qui fait où, là, on a, les rails sont de nouveau disjoints et on entend les bogies, enfin les roues qui passent sur les intervalles de rails et qui font ce son beaucoup plus. Et en fait, on apprend évidemment à l'école ou aux enfants, enfin, qu'un train, c'est un son de train, et puis voilà, c'est fini. Et en fait, ben, pas du tout, il y a autant de trains que de trains. Nous sommes ici, après, à côté de la gare Saint-Charles, et on sait bien que, enfin, nous, en tout cas, nous vivons près de la gare et on a des trains toute la nuit. Et on fait bien la différence entre les motrices, entre les diesels, les électriques.
Tu proposes de tirer parti des sons. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, tirer parti des sons ?
Eh bien, c'est d'abord, les sons, c'est la vie. Et tirer parti des sons, c'est tirer parti des autres. C'est tirer parti des gens. Et c'est pour ça qu'on s'est beaucoup battu il y a une vingtaine d'années contre la lutte anti-bruit, qui finalement était une lutte anti-gens. Parce que tout ça est éminemment politique. C'est-à-dire que ce n'est pas un hasard si c'est toujours les mêmes qui font du bruit. Celui qui a 12 enfants à la maison, il fait plus de bruit que celui qui en a 2. Et c'est toujours les mêmes qui ont 12 enfants et qui en ont 2. Celui qui a un immeuble en pierre de taille, il fait moins de bruit que celui qui habite dans un HLM. Parce que ce n'est pas non plus un hasard si on habite dans un immeuble en pierre de taille. Celui qui a acheté une Safrane, il fait moins de bruit que celui qui a acheté une 2 chevaux. Ce n'est pas non plus un hasard si on a acheté une 2 chevaux parce qu'on ne pouvait pas acheter une Safrane. On voit donc que c'est les populations qui sont les plus pauvres qui vont être les plus bruyantes. Et on voit donc l'intérêt qui consisterait à dire aux gens de se taire ou de faire moins de bruit, c'est effectivement de les faire disparaître et de les stigmatiser comme étant les plus pauvres, donc les plus bruyants. Et en plus de ça, ceux qui sont plus pauvres auraient justement des choses à dire et ont besoin de le dire et de le manifester. C'est de dire j'existe, et j'en ai marre d'être privé j'en ai marre d'être privé aussi du silence, mais j'en ai marre d'être privé de la parole. Et on voit que ce combat, en fait, cette lutte anti-bruit, enfin, en tout cas, moi, on l'avait très vite identifié il y a une vingtaine d'années, était une lutte qui visait, en fait, à faire taire les pauvres. Et elle les obligeait à vivre dans des conditions difficiles, où acheter un rasoir à 200 francs, enfin, à 10 euros, ou un rasoir à 60 euros, c'est pas pareil. Et effectivement, si on les écoute, si on écoute un aspirateur avant de l'acheter, si on écoute son réveil, si on écoute son rasoir, on va s'apercevoir que ceux dont les bruits sont les mieux maîtrisés sont les plus chers. Et donc, on se retrouve, si on fait attention, si on n'a pas beaucoup d'argent, on se retrouve avec chez soi un capharnaüm pas possible, qu'on n'a pas choisi, avec des objets qui font du bruit bêtement, on s'en fiche, qui ne nous exprime pas, qui nous échappe sans arrêt et qu'on ne peut pas maîtriser, qu'on ne peut pas contrôler. Donc ça, ce n'est pas normal. On a tous le droit à choisir les sons. Donc je suis contre la lutte anti-bruit parce que c'est une lutte anti-géant. Par contre, je suis pour une lutte pour l'amélioration de l'environnement sonore parce que c'est d'abord parce que c'est une lutte qui oblige à se mettre ensemble et à réfléchir ensemble. Par exemple, on a fait des expériences dans des immeubles. On se rend compte que dans beaucoup d'immeubles autour de nous, les gens ne se connaissent pas. Résultat, à force de ne pas se connaître, il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des gens qui se couchent quand les autres se lèvent. Le boulanger se lève à 4h du matin, le facteur se lève à 5h du matin. Et il y en a d'autres qui se couchent à 3h ou 4h pour des raisons de travail ou pour des raisons de divertissement. Mais résultat, vous allez voir quelqu'un, par exemple, de très minutieux, très précautionneux, qui passe son aspirateur le dimanche matin à 9h30. Là où des gens attendaient ce dimanche matin pour enfin récupérer de la semaine entière. Donc il suffit de se parler, il suffirait de se faire. Alors on a commencé à faire des cartes sonores dans les immeubles où les gens expliquent comment ils vivent, parce que malheureusement, on pourrait espérer que tout le monde vive comme des artistes ou comme des je sais pas quoi, mais malheureusement les gens ont des vies très réglées, et bon, je dis malheureusement, mais en fait ils n'en sont pas forcément malheureux, mais en tout cas ils ont des vies réglées, et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entre nous qui faisons nos courses quand même un certain jour à une certaine heure, qui rentrons à une certaine heure, qui sortons à une certaine heure, et qui s'en réjouissent, parce que pour certaines personnes cette routine est aussi une façon de d'être en sécurité, donc on ne peut pas non plus dire que c'est mal d'avoir une vie réglée, mais en tout cas ce qu'il y a de pratique dans la vie réglée, c'est qu'on peut du coup la régler avec les autres, c'est-à-dire je sais que je ne passerai pas mon aspirateur avant 2h de l'après-midi parce que j'ai mon petit garçon là, du 3e étage que je ne connais pas bien, mais je sais que lui, il a besoin de dormir le dimanche matin. Et c'est un plaisir de le pas le passer en se disant « mon petit gars, il dort », même si je ne le connais pas, je sais qu'il dort.
Donc écouter amène nécessairement à se parler en fait.
Amène à se parler, amène à se rencontrer, amène à se dire « voilà, nous sommes dans une entité sonore, notre immeuble, c'est une entité sonore ». C'est un concert, c'est un orchestre. Et on va essayer de le jouer ensemble. Alors, bien sûr, il y aura des petits incidents, pas graves, et dont on s'excusera. Et puis, mais la plupart du temps, quand on fait une fête, on prévient, on invite tout le monde. Et puis, si on n'a pas envie d'inviter tout le monde, au moins on prévient. Et puis, on essaie de régler sa vie en fonction des autres. Ça s'appelle, c'est de l'amour, quoi. Enfin, c'est un peu comme on fait quand on aime quelqu'un. Enfin, on est prévenant, c'est des petites attentions et tout ça. Et finalement, ça fait un immeuble où chacun sait ce qui se passe. On sait que le boulanger, il va se coucher tôt parce qu'il faut qu'il fasse le pain le matin. Alors, soit on décide tous d'arrêter de manger du pain, soit on aide le boulanger à se coucher, quoi. Et à ce moment-là, c'est des petites astuces, on s'organise. Ça peut nous apprendre à faire des fêtes à 8h du matin. Ça peut nous apprendre à changer notre vie aussi.
Ouais, inventer.
C'est très excitant.
Pourquoi ce postulat est si peu existant ?
Parce que le postulat, c'est qu'on est tous les uns contre les autres, qu'on est tous les uns, qu'il n'y a pas de boulot pour tout le monde. Dans les entreprises, vous savez, nous le vivons tous, il y a beaucoup de gens qui trouvent des petites astuces dans le travail, en particulier dans le bâtiment, des petites astuces pour travailler mieux, pour travailler plus vite, etc. Et on fait exprès de ne pas filer ces petites astuces à son copain parce que il faut être plus performant que l'autre, et peut-être qu'à un moment donné, il y aura un dégraissage et qu'on prendra le meilleur, et donc on ne file pas ces combines aux autres. Alors au bout d'un moment, il y a des gens qui sont... C'est la hiérarchie qui a causé ça aussi. C'est que dans la hiérarchie, chacun doit défendre son bout de gras parce qu'il est le patron de quelqu'un d'autre. Et donc, on est les uns contre les autres. C'est une folie, cette société de consommation et de compétences et de compétitivité et de sélectivité des personnes, etc. Nous a mis dans une espèce de bouillon culturel qui fait que quand on rentre chez soi, on se campe les uns contre les autres, on met des doubles vitrages, on met des murs anti-bruit. On préfère se laisser faire n'importe quoi et se mettre des murs entre nous plutôt que d'ouvrir les fenêtres et de se parler.
Et pourtant, toujours laisser, par exemple, la télé en fond.
Et laisser la télé en fond, ou la radio. C'est-à-dire... alors, en mai 68, il y avait un mot d'ordre qui était très, 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 très marrant, qui disait « haut-parleur égale ambiance programmée égale répression ». Alors, je le redétaille. Haut-parleur, ça voulait dire vous rentrez dans un restaurant et vous avez des haut-parleurs tout le temps qui diffusent de la musique. Et il y avait marqué ambiance programmée. Ben oui, si vous rentrez dans un restaurant et vous avez une sonate pour piano de Chopin, c'est pas pareil que si vous rentrez avec un groupe de jazz. C'est pas pareil que si vous rentrez avec de la musique électronique ou avec du rock ou avec un rien. Et en fait, à cette époque-là, on était très radicaux et très noir et blanc. Et on disait, ben non, une ambiance programmée, c'est insupportable, c'est autoritaire, on ne peut pas accepter ça. Et c'est vrai que dans certains restaurants, on rentre et on se retrouve dans une espèce de mood, hein, on va dire, une espèce de et des fois c'est casse-pire, on a envie de se dire mais attendez, arrêtez la musique, on va se débrouiller entre nous, on va parler de table en table parce qu'en plus la musique oblige à parler plus fort, donc ça, il y a une espèce de niveau sonore qui s'amplifie qu'on appelle l'effet cocktail c'est vrai que moi je suis assez pour qu'on, en tout cas si il y a des musiques dans l'espace public, je suis assez pour que ce soit très discontinu et très varié, quoi.
Ce qui est étonnant d'ailleurs dans la musique, dans ces espaces semi-publics, semi-privés, comme les restaurants, les cafés, les magasins, même les salles d'attente des cabinets médicaux, maintenant, il y en a parfois, c'est que finalement, on a l'impression qu'il y a... c'est même pas tellement c'est pas intelligemment choisi comme type de musique, comme ambiance sonore, mais plutôt paresseusement. Quoi. C'est alors que des restaurateurs vont faire très attention au décorum, à tout ce qui est visuel, va donner une identité à leur établissement. Ils vont passer n'importe quoi, n'importe quelle radio commerciale en fond.
C'est les deux choses. C'est d'une part la peur du vide. C'est que les gens ont peur du vide, et surtout la peur que ça soit raté, qu'il n'y ait pas d'ambiance. Et le premier truc qu'on fait quand on est dans une fête, et tout, c'est qui c'est qui met de la musique et on met quoi. Et puis quelqu'un ose mettre un truc et on dit « Attends, tu veux nous casser l'ambiance ?» Parce qu'il n'a pas mis la bonne. Quoi, et en fait, ça se passe partout comme ça. Les restaurateurs, dans les supermarchés, c'est des études qui ont été faites différemment, parce que là, l'idée, c'est d'exciter les personnes et de les saturer. Parce que les gens, dans la saturation, consomment. Parce que quand on panique, on consomme. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand vous avez une grosse, grosse, grosse tuile, la jubilation, même si on n'a pas d'argent, c'est de s'endetter à ce moment-là. Si vous avez une très grosse tuile, vous allez vous acheter un gros truc. Quand vous avez quelqu'un qui perd son boulot, il va immédiatement s'acheter un pull à 100 euros. Quoi. Parce qu'il faut résister. Parce que c'est une façon de se battre et de se dire
j'existe.
Ouais. J'existe, je ne suis pas mort, je suis capable de me payer des trucs, même si je n'ai pas d'argent, je m'endette. Et d'ailleurs, le surendettement, il est directement lié au stress et aux difficultés économiques. Et donc, ils ont compris ça. Et ils savent que si on met le consommateur dans une situation de précipitation, de stress, de fatigue, on le fait consommer.
Alors, je crois qu'on n'a pas fini ton petit exemple haut-parleur slogan 68, oui, mais je te propose qu'on fasse
un ping-pong
avec notre ami le son qui va nous arriver de par là-bas.
Oui. Alors, par exemple, on peut aller... je voulais vous... on va rester dans les gares, puisqu'on va écouter la plage 8. On va écouter plusieurs annonces de gares. Et on va voir justement à quoi c'est dû que parfois on n'entend rien, parfois on entend bien, ce bazar des annonces, puisqu'on parle des supermarchés.
Oui. Mesdames, messieurs, l'enregistrement des voyageurs à destination de Londres-Waterloo sur l'Eurostar 9025, départ 11h43, fermera dans quelques minutes. Veuillez vous diriger sur le terminal Eurostar situé au premier étage.
Numéro 9318, en provenance de Bruxelles National Aéroport, va entrer en gare.
Pendant votre voyage, nous vous recommandons la plus grande vigilance. Veillez à fermer vos sacs et à garder vos bagages près du
train numéro 1003 à destination de Strasbourg, départ. 12h49, partira.
Annonce de service. Agent de manœuvre, monsieur Clerquin. Monsieur Clerquin est attendu à 24 pour le train.
Alors là, par exemple, on se rend compte, je ne sais pas si vous avez fait attention, parce qu'on a toujours tendance, j'ai mal lancé le sujet. J'aurais dû dire, n'écoutez pas les annonces, écoutez ce qu'il y a derrière les annonces, ou écoutez comment, dans quel contexte les annonces se passent.
Tu veux qu'on réécoute ?
Non, c'est bon. En fait, ce qui est intéressant, c'est comment est-ce qu'on peut considérer qu'une annonce fonctionne ou pas. Déjà, on ne peut pas parler aux gens sans les prévenir qu'on va leur parler. Donc il y a toujours un sonal avant, il y a toujours une petite musique avant, parce que sinon les gens ratent la moitié du message, parce qu'ils sont occupés ailleurs. Donc quand on entend la sonnerie, il y a un réflexe pavlovien qui fait que dès que ça sonne avant, c'est attention, on va me parler.
C'est typique en radio aussi.
Ouais. Et donc il faut toujours dire aux gens, attention, je vais vous parler. Parce qu'évidemment, on ne les a pas en face de soi et puis on sait que... Bon. Alors il y a le sonal, donc la qualité du sonal. Bon. Mais à quoi c'est dû que ça marche bien une sonorisation ? C'est dû à la qualité des haut-parleurs, donc la qualité de sonore, on a vu ici des choses différentes. C'est lié à la quantité des sources qui sont accumulés à ce qu'on appelle l'effet de masse, qui sont accumulés autour. Donc on ne peut pas envoyer les annonces à 6h du soir comme on les envoie à 5h du matin. Mmh. sinon on le ferait gueuler, etc. Enfin, donc il faut arriver à penser la sonorisation en fonction de la quantité des sources qui sont en même temps. Il y a la proximité entre le haut-parleur et l'auditeur. Donc, ouais, combien de haut-parleurs, si vous allez visiter la gare demain matin, vous regardez bien, vous verrez les haut-parleurs sont parfois descendus sur des espèces de petits pylônes pour être très proches des gens, de façon à ce que ça n'excite pas l'acoustique de la gare. Et puis il y a aussi la résonance, et ça c'est pour contourner la résonance propre du volume de la gare. Donc dans ces cas-là, il y a des matériaux absorbants sur les côtés, mais en général c'est assez difficile à faire. Et donc toutes ces, et puis il y a aussi l'articulation et la clarté des voix. Et donc là, les gens sont choisis. Vous avez vu, ils parlent très lentement. Ils annoncent les numéros en les décortiquant. Le train numéro 9403.
C'est pas des machines qui font ça ?
Pas encore tout à fait. Et il y a donc tout un travail qui est fait sur le son dont on se doute pas. Et vous savez qu'il y a des acousticiens chez Renault, chez Peugeot, on va dire, c'est déjà ces deux-là, mais je sais qu'il y en a partout. Et là encore, une dimension politique des choses, qui travaille le son des voitures. Eh bien, rendez-vous compte à quel point l'idéologie se faufile partout. On ne fabrique pas le son d'une voiture qu'on destine à une femme, comme on le destine à un jeune, comme on le destine à un adulte, et en particulier un adulte argenté. C'est-à-dire que la façon dont le son se constitue idéologiquement, c'est que celui qui achète une voiture chère, lourde, c'est un homme de pouvoir, c'est souvent un homme, c'est souvent un cadre, donc c'est un homme de pouvoir. Il a besoin de sentir le pouvoir et le pouvoir se manifeste par deux choses. Première chose, il doit être coupé du monde, donc il faut qu'il soit parfaitement isolé dans son habitacle, qu'il n'entende pas son moteur qui est anecdotique, qui est l'expression de son pouvoir, mais il ne doit pas le sentir. Il ne faut pas qu'il entende la vie autour de lui, et surtout quand il ferme sa portière, il faut qu'il sente qu'il ferme quelque chose de lourd, de fort, de puissant et de cher. Et donc ça fait très sourd. Une femme... Elle est réputée pour s'en foutre des objets et pour se détacher des objets, n'en avoir rien à faire. Et ça tombe bien puisque le constructeur a besoin qu'elle abîme sa voiture le plus vite possible en se garant n'importe comment, au bruit, en fermant sa portière, en faisant pas gaffe, en chargeant ses trucs n'importe comment, parce qu'elle va changer rapidement de voiture. Et donc, il faut que sa voiture ait l'air de pas être importante. Donc, il faut que les portières fassent gong et que tout fasse des petits bruits. Il faut que ça ait l'air d'être du toc. Et parce que comme ça, on va l'aider à s'en foutre et on va l'aider à la dégrader rapidement. Et le jeune, il faut qu'il entende le bruit de sa voiture, le moteur, parce qu'il va s'exciter avec et que ça va lui. Et lui, ce qui l'intéresse, c'est la conduite. Donc, il faut que il y a une ouverture entre l'habitacle et le moteur pour qu'il entende. Et lui, il va pouvoir jouir de sa voiture comme ça. Et bien, tout est complètement calculé.
Donc on laisse bien chacun dans sa case de représentation sociale, et c'est ce que tu viens de dire est complètement affreux, parce que comment on fait pour résister à ça ?
Ben on peut pas, enfin sauf à acheter la voiture de l'autre.
Voilà, faut s'échanger. Ouais. Oui. Non mais c'est voilà, après comment résister non, à ça
monstrueux.
Et comment
c'est monstrueux. Ben je sais pas, on peut y pas résister, c'est changer de société.
Oui, ça c'est ah, ça.
Et ça
c'est
on
clair.
Fera attention en 2007. Hein.
Oui. Si on peut faire attention, enfin, on va pas se mettre à faire de pronostics sur les prochaines élections, mais on va être, je pense, un petit peu embêté quand même. Voilà. Et ben moi, ce que tu viens de dire, ça me voilà. On arrête l'émission, puis on va faire la révolution tout de suite parce que c'est pas possible. Non, mais pour en revenir donc à cette, est-ce qu'on peut dire quelque part apprivoiser les sons qui nous entourent est-ce que peut-être avant de les apprivoiser, il faudrait effectivement les reconnaître. Mais tu dis que c'est important de savoir les mettre à distance. Ça veut dire ça ? C'est pour les apprivoiser, c'est pour les comprendre, c'est pour les cerner. Qu'est-ce que c'est mettre à distance ?
C'est aussi faire attention à nos gestes. Il y a beaucoup de gens qui ne savent pas fermer une porte sans faire de bruit, par exemple. Alors qu'une porte, ça se travaille comme un violoncelle. Hein. On peut passer 10 ans à prendre le violoncelle au conservatoire, mais il faut passer autant de temps à fermer ses portes parce que le jour où on a un enfant, on est content de savoir le faire. On est content de savoir rentrer dans sa chambre et ressortir sans faire de bruit. Mais il y a des gens qui sont incapables. Savoir descendre ses poubelles sans forcément envahir tout le monde. Savoir faire des jolis sons. Je sais pas, quand on écrit, penser à écouter son stylo quand on écrit. Et puis du coup, on se rend compte que ça peut avoir une influence sur l'écriture. Enfin, penser à écouter son robinet quand on boit de l'eau, c'est cette maîtrise, c'est cette chorégraphie de la vie quotidienne qui donne du plaisir à nos gestes et qui c'est, font que
c'est une philosophie de la vie.
Oui,
quotidienne.
C'est une philosophie de la vie aussi, oui. Et puis entendre les acoustiques autour de soi, entendre l'architecture. Ben, là, on va écouter par exemple la plage 7. Et ben dans la plage 7, le baryton se promène dans un jardin, il pousse une grille de jardin, on pourrait penser que c'est anodin, c'est une vieille grille rouillée, mais moi je trouve qu'elle est mignonne, enfin bon. Et puis il chante, et puis à un moment donné il rentre dans un tunnel et ça va se mettre à résonner, et puis écoutez bien, quand il sort du tunnel à la fin, toute la résonance s'en va et hop, ça redevient mat et il se rapproche de nous. Et bien toutes ces petites choses, on n'y fait jamais attention, moi je trouve qu'elles sont délicieuses.
scène
Voilà, en fait, c'est un CD qui parle de l'écoute, donc qui donne des tas de petits exemples comme ça, de situations, et qui, en fait, le fait toujours à partir de la vie quotidienne. C'est-à-dire que souvent, les CD qui font de la pédagogie sur le son, sur l'écoute, font appel à des instruments de musique ou à des sons électroniques, enfin des démonstrations pédagogiques, et là, c'est que des prises de son qu'on a fait vraiment dans la vie, quoi, dans l'espace.
Est-ce que ça veut dire que, pour toi, tout son est musical ?
Non, pas du tout. Tous les sons sont pas. Ce qui est musical, c'est ce qui est le propre du musical, c'est l'intention. Donc, s'il y a une intention d'être musical, c'est musical, quoi que ça soit. S'il n'y a pas d'intention, c'est jamais musical. Alors après, on peut y prendre du plaisir. On peut dire que c'est agréable, mais c'est pas la musique, c'est l'intention d'être musical. C'est le désir de fabriquer un son avec l'envie qu'il soit écouté en tant que comme un objet de plaisir. Mais bon, alors évidemment, on peut décréter que quelque chose est musical. Mais...
Donc finalement, c'est d'abord l'écoute alors qui rend la chose musicale, qui rend le son musical.
Absolument. C'est Mais d'ailleurs, moi, je dis souvent que la musique n'existe pas parce qu'il y a des gens pour l'écrire, mais parce qu'il y a des gens pour l'entendre. C'est celui qui... D'ailleurs, là, ce qu'on va entendre tout à l'heure, c'est le public qui va le faire. Le spectateur, quand il rentre dans la salle, là, le spectateur est complètement mêlé aux interprètes. Hein. Il n'y a pas une scène et une salle. Et donc, c'est lui qui, en tournant la tête, va aller chercher les sons qui l'intéressent. Et d'ailleurs, si vous qui avez entendu quelques répétitions, vous avez vu qu'on n'entend jamais les mêmes choses hein, quand on se déplace, quand on la réécoute deux fois, etc. Donc, c'est vraiment l'auditeur qui fabrique sa musique. Et à la fin, on a autant de musique que de gens qui l'ont entendue. C'est un peu comme dans un film de Godard. Quand vous sortez d'un film de Godard, il y a autant... il y a autant d'explications du film que de gens qui le racontent. Si vous sortez d'un James Bond, en gros, on a tous vu le même film. Hein. James Bond s'est rapproché de la fille du mannequin qui avait le microfilm dans son soutien-gorge. Il a arraché le soutien-gorge, il lui a fait l'amour, il a pris le microfilm, il l'a tué, il est parti dans son avion. Enfin bon, on a tous vu le même film. Alors que dans un film, dans un concert, comme dans ces films dont je parle, l'histoire est beaucoup plus complexe et il s'en passe partout et ça se superpose et c'est vraiment l'auditeur, comme dans la vie quotidienne, qui entend ce qu'il veut.
On en parle un peu d'ailleurs de la façon dont Caroline et Étienne, vous êtes en train de vous immerger depuis quelques jours dans les répétitions.
Caroline, c'est un peu spécial.
Ouais, alors, Caroline, elle
est en roue libre, je dirais. Elle fera une prise de son mobile pendant toute l'heure du concert.
Spécial et très privilégié, je trouve, puisque entièrement libre, effectivement, de choisir quel gros plan sonore je vais avoir envie de
c'est
pointer.
C'est quoi un gros plan sonore ?
C'est-à-dire qu'effectivement, là, je me balade avec un micro qui est au bout d'une petite perche. Et donc, je vais pouvoir atteindre des sons que les oreilles, aussi bien des spectateurs présents que des auditeurs, voire même d'Étienne, qui aura un casque, lui, sur les oreilles, ne pourra pas forcément avoir, de par le retour du son global qui va ressortir de cet événement. Là, je vais pouvoir y aller avec ma perche et mon micro, tout près.
C'est une petite souris.
Voilà, tout près du, par exemple, dans un ensemble de voix, dans une chorale, je vais pouvoir aller, si je veux, écouter la troisième voix du deuxième rang et me dire, ah tiens, et puis voir à côté, et écouter, enfin pas voir, mais écouter aussi ce que fait la personne à côté de cette voix, etc. Et puis, comme il y a il y a beaucoup, enfin pas de balades, mais de marches et de déambulations pendant le spectacle qui ne sont pas forcément captées par des micros, je vais pouvoir effectivement, même de loin, essayer de rendre compte de ce qui se passe pendant ces moments de déambulation aussi. Bref, donc c'est donné aussi un détail sonore, plusieurs détails sonores qui vont évidemment être mixés avec les mains d'Étienne à l'ensemble et puis à d'autres aussi matières sonores.
Mais par exemple, quand on écoute un orchestre, c'est assez rare, hein, d'être dans une situation d'écouter un orchestre. C'est assez rare. Enfin, peu de gens ont cette expérience d'aller dans un concert avec des grands orchestres symphoniques. On est souvent mis en fait à 15 mètres de l'orchestre et on entend un tout comme ça. Imaginez, on vous dit, allez, va te promener sur la scène. Et passe entre les violons, entre les cordes, les cuivres, les percussions, etc. Et puis elle va écouter ce que tu veux. Et on se rend compte qu'il n'y en a aucun qui joue la même chose, évidemment. Sinon, on aurait une immense unisson, un peu banale. Et en fait, justement, tout le monde joue quelque chose de différent au même moment. Mais sauf qu'on ne s'en rend pas compte parce que les gens n'écoutent que la mélodie. Puis les gens écoutent surtout la masse sonore complète, enfin mixée. Enfin, pour dire, et c'est d'ailleurs c'est un peu l'handicap de la radio, c'est que la radio n'envoie qu'un message. Alors que dans la vie, on en reçoit toujours 6 en même temps. Et d'ailleurs, là, en ce moment, je parle et l'auditeur n'entend que moi, sauf qu'il entend aussi ce qu'il a dans sa pièce.
Et tu me fais un geste.
Oui, ce qu'il a dans sa pièce. Et donc, peut-être qu'on pourrait jouer un petit jeu.
Le petit jeu.
Soyons ludiques.
Le petit jeu. Moi, je veux que ce soit toi qui codifie cet instant de petit jeu. Je te renvoie et je te montre du doigt pour que tu donnes... Cher auditeur, toi qui nous écoutes, pour que tu donnes quelques petites indications pour se mettre en disponibilité d'écoute.
Alors en fait, c'est moi qui vais donc donner les règles du jeu de Nelly. C'est-à-dire que Nelly se disait, tiens, et si on vous proposait, vous qui nous écoutez, et que vous nous écoutez peut-être en faisant autre chose, peut-être vous êtes dans votre voiture, peut-être vous êtes dans votre salle de bain, peut-être vous êtes dans votre travail. Donc vous êtes, si vous nous écoutez, c'est que vous êtes en train, vous cherchez quelque chose à entendre, c'est que vous avez envie d'entendre. Et on se disait, tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas vous renvoyer la balle et se taire et vous garder cette idée de nous entendre, mais cette fois-ci, vous allez entendre dans quelles conditions vous êtes en train de nous entendre. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe-t-il autour de vous? Là, vous qui êtes en voiture, que se passe-t-il en ce moment?
Et pendant 30 secondes, on est avec vous.
Bonjour, vous étiez à l'écoute de la vie quotidienne des auditeurs de Radio Grenouille.
J'adore. Bon, ça, on ne le fait jamais à la radio.
Ben non,
ça n'existe pas.
Il y a même des radios où on ne peut pas le faire.
Mais on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le faire à moins de...
Souvent aussi, peut-être les...
3 minutes, je crois.
On écoute la radio pour justement avoir une autre ambiance sonore que chez celle, soi, enfin que celle où on se trouve.
Ouais.
Tu as raison.
C'est vrai.
Mais on ne l'écoute pas tous les jours.
C'est pour se déplacer qu'on écoute la radio aussi.
Ouais. Voilà, écoute, là, on a fait un petit jeu de ping-pong comme ça. Où est-ce qu'on en était?
On en était qu'en fait, il y a 3 façons d'écouter.
Voilà, il est pas formidable. Si, il l'est, voilà. Je dis où on en était et puis bim.
On peut écouter les choses pour leur phénomène sonore, c'est-à-dire que comme elles existent en tant que phénomène sonore, c'est ce qu'on appelle l'écoute objective. On peut écouter en fonction de comment on se sent nous-mêmes, en fonction de nos états d'âme, tout ça, c'est ce qu'on appellerait l'écoute subjective. Et puis, entre les deux, vient se loger quelque chose d'un peu plus compliqué, qui est le contexte. C'est une espèce d'écoute contextuelle et qui agit sur le subjectif et sur l'objectif. Alors l'objectif, c'est quoi? Par exemple, c'est les sons que font vraiment les sons. C'est-à-dire, on a parlé des hauteurs tout à l'heure, des aigus, les graves, l'intensité, le fort, le pas fort, la densité, beaucoup, pas beaucoup, la forme des sons. Vous savez que la forme, on a toujours tendance à appeler ça une enveloppe, hein, comme à la poste. L'enveloppe d'un son, d'une lettre, c'est quoi? C'est son contour. La forme, l'enveloppe d'un son, c'est son contour. C'est donc l'attaque, l'entretien et la chute. Il y a plusieurs sortes d'attaques. Il y a l'attaque abrupte,
ta,
comme ça. Il y a l'attaque plate, da. Donc ça arrive d'un coup, mais il n'y a pas de choc. Il y a l'attaque molle, ma. Ça arrive doucement. Il y a l'attaque sforzando, comme ça, avec un crescendo qui fait exploser le micro. Et puis voilà, donc toutes ces formes d'attaque sont des formes d'entrée des sons en fait dans la manifestation sonore, on va dire. Puis après il y a l'entretien qui peut être continu ou discontinu. Continu c'est ti, discontinu c'est oui, je l'ai déjà fait, ou ça c'est un peu discontinu ou itératif. Et puis après il y a les modes de chute des sons qui s'arrêtent brutalement ou qui s'arrêtent décrescendo, enfin doucement, etc. Et tout ce travail, toute cette expérience de matière, c'est l'expérience de l'écoute objective. Alors par exemple, si on écoute la page 18 et la page 19, on va entendre ce qui se passe dans une cuisine. Dans une cuisine, il se passe qu'on prend une casserole, on entend un son de métal, qu'on le pose sur le gaz, ça fait un choc moins timbré. D'abord, on met de l'eau dedans, elle va se mettre à chanter. Puis après, on pose sur le gaz, c'est beaucoup plus sec. Puis on va voir arriver le son du gaz qui, lui, a un bruit blanc. Et donc, toutes ces qualités de son, qu'on pense ne pas être musicales, on dit tout à l'heure parce qu'il n'y a pas de hauteur, sont en fait, si on les écoute comme des phénomènes sonores, on se rend compte qu'elles ont une vraie qualité.
Les sons d'introduction de cuisine ont dû rappeler des petits souvenirs à Caroline, puisque une des règles du jeu qu'on avait proposée à nos auditeurs, vous l'avez même pas suivie, cette règle du jeu, chers auditeurs, mais enfin, on vous en veut pas, c'était de nous faire partager vos sons du quotidien, et on vous avait illustré ça au travers de petits exemples personnels, et tu avais, Caroline, des déambulations.
Ouais, j'avais refait une petite scénette, en fait, du réveil, de faire le thé, enfin le réveil, faire le thé, prendre la douche, l'eau, etc. Effectivement, mais c'était moins, évidemment, moins sonore et moins musical.
Non, mais si, c'était très bien. Donc là, on a vu qu'on est passé des sons de gaz aux sons de mer, parce qu'évidemment, il y a une grande proximité entre tous ces sons, c'est que ce sont ce qu'on appelle les bruits blancs. Les bruits blancs, c'est quand on fait tenir des consonnes comme... Tout ça, c'est des bruits blancs, c'est des bruits dans lesquels il y a beaucoup, beaucoup de fréquences, c'est comme la couleur blanche, dans laquelle il y a toutes les couleurs. Et on les rencontre beaucoup dans la vie, on les rencontre dans les ventilateurs, on les rencontre dans la mer, dans l'eau, dans le gaz, enfin, et surtout quand il y a de l'eau dans le gaz aussi.
La pluie.
Voilà, donc ça, c'est toutes les matières. Alors maintenant, il y a d'autres phénomènes qui rentrent dans les sons objectifs, c'est l'acoustique. Évidemment, toutes ces matières, selon qu'elles sonnent dans une pièce ou en plein air, selon qu'elles sonnent dans un espace réverbérant ou dans une petite salle très, très absorbante, évidemment, on n'aura pas la même couleur et on ne fait jamais attention à ces acoustiques. On fait attention à l'acoustique lorsque ça ne sonne pas, mais on ne fait pas attention quand ça sonne, quand ça ne marche pas bien, mais on ne fait pas attention quand ça marche bien. Et l'acoustique, c'est très important, parce que regardez, par exemple, si on est dans une salle de réunion, et que ça résonne énormément, si je me mets à parler fort, les gens n'entendront rien, parce que ça résonne trop. Donc je vais être obligé de parler doucement, comme ça. Et les gens vont se dire, mais pourquoi ils nous parlent sur ce ton-là? On n'a pas couché ensemble. Et inversement, si c'est très, 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 très absorbant, je vais être obligé de parler très fort, parce que la pièce ne m'aide pas à porter le son. Donc je suis obligé de parler extrêmement fort, comme ça, et de faire toute ma conférence sur un ton très arrogant, voire incantatoire. Et les gens vont se dire, mais pour qui il se prend celui-là? On n'a pas besoin qu'on nous parle sur ce ton-là, quoi. Ça veut dire que c'est les architectes qui conditionnent la qualité de nos relations et comment on se parle. Et je vois encore trop de gens qui achètent des maisons, qui louent des maisons, qui vont dans des, ou qui choisissent leur bureau, qui aménagent leur bureau, ou qui aménagent leur salle de classe pour les enseignants, sans s'occuper de savoir comment les sons s'y propagent. Mmh. Et c'est pourtant très important parce que c'est ça qui va conditionner comment les gens vont s'entendre.
Et comment sont, et de quelle façon et sont-ils sensibles, ces architectes, toi qui travailles beaucoup aussi, entre autres, sur les notions d'espace public, comment ils s'approprient ça, les architectes ?
Ben évidemment, ça les intéresse beaucoup, sauf que c'est des coûts en plus. Enfin, on pourrait, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'en fait, c'est très souvent des astuces d'architecture qui peuvent régler des problèmes, et pas seulement les matériaux qui coûtent souvent un peu cher. Mais il y a des architectes qui s'en fichent, et puis il y a ceux qui dessinent avec des maisons avec des stylos, puis ceux qui les dessinent avec le bon sens. C'est sûr que le stylo, vu d'en haut, sur un papier, ça ne dit pas grand-chose de la qualité de vie de la maison plus tard. Il y a des architectes qui sont très préoccupés de la qualité de vie, qui s'intéressent aux ombres, aux lumières, à la façon dont les surfaces vont conserver la chaleur, dont on peut se protéger d'une gare ou d'un aéroport autour. Et puis il y en a d'autres qui s'en fichent parce que leur objectif, c'est de signer un objet comme ça, éthéré au-dessus du monde et dans lequel des gens vont quand même finir par vivre, quoi.
Donc là, on était sur critères objectifs.
On est sur les critères objectifs. Alors, pour écouter l'acoustique, on l'a vu un petit peu. C'est, enfin, il y a une chose qu'on peut finir sur l'acoustique intéressante, c'est que si vous voulez habiter, quand vous décidez de chercher à louer un appartement, et puis vous voyez un appartement qui est au premier étage, vous vous dites, ouais, c'est pratique, premier étage, j'oublie le beurre, j'oublie le pain, je vais le chercher en 5 minutes. Puis en même temps, on se dit, ouais, mais j'aurai pas beaucoup de lumière. Et on pense pas au son. Et quand on trouve un appartement au 10e étage dans une tour, on dit, oh là là, j'espère qu'il y a un ascenseur. Oui, mais enfin, il ne faut pas que j'oublie quand je fais mes courses, il ne faut pas que j'oublie un truc parce que j'ai oublié de me retaper tout le reste, etc. Et on se dit, tiens, j'aurai beaucoup de lumière. Mais en fait, ce qui va se passer, on va entendre les plages 41, 42, 43, 44. Et en fait, donc j'ai une petite scène où on verra quelqu'un qui monte chez lui, qui se rend compte qu'il avait laissé la fenêtre ouverte, que la chimie, que sa savette est tombée. Donc il va au premier étage et il entend, en descendant du premier étage, la vie de la personne qui habite au premier étage. Et qu'est-ce qui se passe ? Ah, et avant, on avait écouté le haut. C'est qu'en haut, on entend une rumeur de la ville, indistincte, qui est une espèce de grand souffle urbain, mais qui n'a pas de chronologie, c'est-à-dire que qui est un peu pareil à 8h du matin, à midi ou à 7h du soir.
Donc il n'y a pas d'événement.
Il n'y a pas de temporalité, il n'y a pas d'événement. Et au premier étage, on entend le clochard qui passe par là, qui renverse sa bouteille, on entend les caddies, on entend les poussettes d'enfants, on entend la mercière qui ouvre son rideau, et on est au contraire complètement dans une hyper-temporalité, on est dans la ville.
Madame.
Bonjour.
J'avais mis une serviette à sécher à la fenêtre. Je crois qu'elle est tombée sur votre balcon.
Mais attendez, je vais voir.
Je peux venir avec vous ? J'aimerais bien voir la rue depuis chez vous.
Oui, bien sûr.
c'est Nicolas. C'est
pas ça. À qui il a fait but de qui ? Samuel, t'as prévu du travail, toi ?
Passe le rire.
Si.
Et Redouane, il voulait me voir.
On est sur la route là.
Il m'a appelé, il m'a dit t'es où ?
Voilà, là on est encore ailleurs, on est en train de, jouer avec un des sons qui était dans la rue. Alors ça c'est donc l'aspect, bon, on va dire objectif, quoi, les matières des sons et leurs architectures. Après il y a l'aspect subjectif, c'est comment est-ce qu'on écoute avec son état d'âme, avec son âge, avec son éducation, avec sa santé. C'est vrai que quand j'ai 8 ans, j'écoute pas pareil que quand j'ai 45 ans ou quand j'ai 90 ans. C'est vrai que j'écoute pas pareil si je suis dans un milieu aisé ou d'un milieu pauvre. C'est vrai que j'écoute pas pareil si j'ai mal à la tête, ou si je suis enceinte, ou si je suis très malade, ou si je pète la forme et je viens d'avoir la réponse de mon boulot et que je suis augmenté. C'est des circonstances qui font qu'on n'est pas, dans les mêmes dispositions. Et puis il y a cet aspect-là, puis l'aspect aussi qui fait qu'il y a certaines personnes qui m'énervent. Et là, je ne suis pas objectif du tout. Il y a des accents qui m'agacent. Il y a des restaurants que je déteste à l'avance avant d'y rentrer. Et donc, du coup, mon oreille se ferme. Elle devient sélective. J'écoute que ce que je veux. Elle devient acariâtre. Elle devient... Ou au contraire, j'ai l'impression que la voix de cette jeune femme est sublimissime, et tout le temps sublimissime, et que c'est là la plus belle voix du monde. Et que je pense qu'il n'y a pas une autre personne qui lui arrive à la cheville quand j'écoute sa voix. Évidemment, tout ça est largement pas objectif, quoi. Donc c'est la partie qui fait que finalement les gens... Je me rappelle une fois dans une classe, j'avais fait entendre une séquence musicale et il y avait une enfant qui m'avait dit « Oh, on dirait la campagne et puis des gens qui cueillent des fleurs, tout ça. » Et puis il y avait un autre enfant à côté qui avait dit « Mais non, pas du tout. Moi, j'avais l'impression que c'était plutôt un truc de guerre ou... » Et en fait, je me dis, mais c'est fou comment les gens se projettent, quoi. Enfin, comment ils n'écoutent pas du tout ce qu'il y a à entendre, quoi. Chacun entend ce qu'il veut, quoi. Chacun. C'est comme ça qu'à la première concert, les gens vont dire, oh, je trouve que c'était un peu triste. Ce soir, il n'y avait pas une bonne ambiance. Et en général, il faut se demander si ce n'est pas au fond de soi qu'il y a quelque chose qui ne va pas très bien. Je me rappelle une fois, d'ailleurs, une autorité qui était venue après un concert me dire que ma musique était devenue nostalgique et... Et bon, j'avais au moins des échos extrêmement différents et je m'étais dit, tiens, lui, il doit avoir un petit coup de blues en soi.
Et puis, donc,
troisième. Voilà. Et puis, alors, le troisième, c'est les contextes. Alors, les contextes, c'est plus compliqué parce que c'est les contextes culturels. Effectivement, là, je fais allusion à une subjectivité de l'instant ou très individuelle. Et le contexte, c'est le contexte culturel. C'est vrai que dans les pays du Sud, on n'écoute vraiment pas comme chez nous. Et ça, c'est vraiment des grosses questions culturelles. Il y a les questions historiques aussi. On n'écoutait pas il y a 50 ans comme aujourd'hui et on n'écoutera pas comme dans 50 ans. Le rôle des musiques est très, très important. Le fait que les musiques soient devenues amplifiées maintenant, que des concerts avec des sonorisations importantes, qu'on peut écouter de la musique à 5 ou 6 000 ou à 30 000. Le fait que nos objets évoluent autour de nous, hein, que nous a fait pratiquement disparaître le bois et le métal de nos objets, il n'y a plus que du plastique. Les enfants naissent dans le plastique. Hein, tous les objets des enfants ne sont plus en bois en métal plastique. Pour des raisons de sécurité. Donc ils n'ont plus de timbre, ils n'ont plus de hauteur, ils sont tous devenus blancs et en plastique. Mais ça agit énormément sur l'audition plus tard. Un enfant baigne dans le plastique. Mais c'est horrible. Faire naître un enfant dans le plastique, c'est suicidaire, quoi.
Les jouets en bois coûtent très cher.
Voilà, bah oui. Et puis les jouets qui ont des vrais sons.
On revient à ce que tu disais tout à l'heure, de toute façon. C'est vrai.
Et si on veut offrir un instrument de musique à son enfant, s'il est petit, on a à notre disposition des objets foireux. On n'a pas des vrais instruments. Et encore une fois, les petits instruments qui soient des beaux, avec des notes justes, avec des vraies hauteurs. Après, on se demande pourquoi notre enfant chante faux alors qu'on lui a acheté des petits métallophones, des petits trucs qui sont tous faux. Et si on veut lui offrir un instrument qui joue juste, on est obligé de lui acheter un vrai instrument et ça coûte cher. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on s'en fout de nous, c'est-à-dire qu'on nous balance des sons sans s'occuper de la qualité de notre éducation et tout ça. Et tout ça, ça va avoir une incidence. C'est vrai qu'à la limite, un enfant qui a grandi avec des objets qu'il ramasse dans la rue, etc., il est finalement presque plus protégé parce qu'il a une diversité sonore. Il va tomber sur, justement, comme tout à l'heure, je faisais écouter les morceaux de bois avec des timbres. Il va s'inventer ses instruments à lui. Il va se retrouver dans un environnement beaucoup plus contrasté, en tout cas. Mmh.
Est-ce que dans les différents travaux que tu as faits, tu as intégré la voix ? La façon dont on écoute la voix des autres et la façon dont on utilise la sienne.
Absolument. Et en fait, il y a une évolution très importante de siècle en siècle sur la façon de parler. On a la certitude que les gens du Moyen-Âge ne parlaient pas comme nous. Le timbre, le débit, le souffle. J'ai enregistré il y a une dizaine d'années 200 voix à qui j'ai fait dire un corpus commun. Par exemple, alors c'est très drôle parce que je leur ai donné par exemple les trois petits cochons, Lucky Luke et la Déclaration des droits de l'homme. Et ce qu'il y a de marrant, c'est que nous tous
éclectique.
Et dès qu'ils prennent le texte des trois petits cochons, tout le monde, mais il n'y en a pas un nous qui échappe, hein, ils font. Et alors, le troisième petit cochon s'avança près de la maison et le loup est arrivé. Et tout de suite, ils ont un espèce de ton d'enfant, alors que je ne leur demande pas de raconter un enfant, je leur demande juste de me le lire. Après ça, c'est Joey Dalton, ouais. Alors tout est pas dans la gorge, Lucky Luke, je t'apprends bien, descends de ton cheval, Johnny Jumper, voilà, on parle comme ça. Et pour la Déclaration des droits de l'homme, comme tout le monde pense que c'est un texte qui est officiel.
Sérieux
et impersonnel surtout, parce qu'il appartient à tout le monde.
Ouais.
C'est, les gens prennent une grande respiration et disent « Les hommes naissent et meurent, et libres et égaux en droit, etc. » Et pas d'expression. Uh-huh. On ne doit pas mettre de l'expression sur une déclaration universelle. Et donc, du coup, on voit qu'on a des codes de parole qui sont très importants, et surtout qu'on ne se rend pas compte à quel point le ton, c'est-à-dire l'expression, et donc la musicalité est importante. C'est-à-dire qu'avec le même mot comme « encore », par exemple, je peux dire deux choses différentes, je peux dire deux choses opposées. Par exemple, si je fais « encore !» Apparemment, vous avez senti que j'en voulais encore. Mmh. Et si je vous fais encore, voilà, je n'ai pas très bien fait parce que je suis pas comédien. Vous avez compris que j'en voulais plus.
Ouais.
Donc, avec le même mot, et on peut dire deux choses différentes. Mmh. Et c'est pour ça que les couples se castagnent. Parce qu'il suffit qu'il y en ait un qui rate le ton, même si ce qu'il a dit était bien. Et s'il a raté le ton, c'est frité pendant deux jours. Et c'est comme ça aussi que certains hommes politiques disent des choses horribles avec le bon ton. Mmh. Il suffit qu'ils aient un peu d'autorité, un peu de conviction, et on n'entend plus que ce qu'ils disent est horrible. Mmh. Et donc le ton est très important, et ça évolue de siècle en siècle, parce que les préoccupations ne sont pas les mêmes, parce que l'autorité change aussi, elle se déplace. Et on voit qu'aujourd'hui, la notion d'autorité, et même je dirais les rôles idéologiques du père, de la mère... des filles, des garçons, etc., évoluent énormément. Donc tout ça, ça a une incidence énorme sur l'écoute, les voix. La voix, c'est quelque chose... Regardez, je vais faire des stéréotypes, mais c'est vrai que les gens qui articulent beaucoup, qui parlent lentement, ça a des connotations très particulières. Les gens qui parlent très vite, comme je fais depuis le début, machin, ces mots, et on comprend rien du tout, parce qu'il est tout bout à bout. C'est pas les mêmes personnes. Enfin, on voit bien que c'est pas... On ne parle pas de la même façon à France Culture. Et...
Oui, puis ça, c'est à ce niveau-là, les débuts de la TSF, et aujourd'hui, on a vraiment tout le spectre comme ça.
Absolument,
Ouais. Et dans tes travaux plus pédagogiques, pour le coup, tu as intégré un travail sur la voix et sa relation au corps, par exemple.
Alors oui, on peut écouter peut-être rapidement la plage 29-31, où on entend deux maîtres d'école, c'est parce que c'est aussi fait quand même pour les enseignants.
Ouais.
On entend un qui fait une dictée, mais qui parle dans sa gorge, qui a une voix un peu éraillée, et on ne comprend rien ce qu'il dit. Si les enfants arrivent à faire la dictée, ils sont forts. Et on va entendre juste après une leçon de mathématiques. Alors on va sauter, on va écouter la 29 puis la 31. Et dans la leçon de mathématiques, la professeure articule, elle a une voix plus claire, elle fait attention à sa voix. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, un enfant qui a un maître qui n'articule pas bien, qui parle pas bien, qui fait pas attention à sa voix, c'est un enfant qui condamne ses enfants, c'est horrible à dire, mais c'est un enseignant qui condamne ses enfants.
Le temps passait, l'eau montait. Point. Si je n'arrive pas à dégager l'entrée, si je n'arrive pas à dégager l'entrée, si je n'arrive pas à dégager l'entrée, nous sommes perdus. Point d'exclamation. Cathy. Nous n'aurions jamais dû rentrer dans ce souterrain.
C'est plus court qu'une droite parce qu'une droite elle peut être tracée à l'infini.
Voilà.
Et qu'un segment il a une mesure.
C'est bien ce que tu dis. Qu'est-ce qu'il veut préciser? Elle est sur la voie. Hein. Est-ce qu'on l'avait écrit dans la classe quelque part ça?
Oui.
Le segment. Kamel. Oui.
Le dictionnaire de géométrie.
On va tous regarder le dictionnaire de géométrie. Et là les nouveaux élèves, hein, il va falloir qu'on se remette ça en mémoire. On t'écoute Laurie. Qu'est-ce qu'il y a dans notre dictionnaire de géométrie?
On voit les diagonales, on voit des segments.
Oui.
On voit une trace au compas.
Oui.
On voit des périmètres.
Oui.
On voit des angles droits.
Alors je vais la laisser au tableau. Et l'idée aujourd'hui, sur ta feuille blanche. Avec ton matériel.
Un peu de vocabulaire ?
Oui, parce que justement, voilà, on entend cette maîtresse qui a une voix très distincte, alors que le maître précédent faisait une dictée dans sa gorge. Eh bien, en fouillant un peu dans les dictionnaires, et surtout dans la littérature, au Moyen-Âge, les adverbes ou les adjectifs ou les verbes sur le son étaient assez limités. On parlait de bruire, de chanter, de crier, de faire grand bruit. À l'époque, le bruit était une chose très positive. Frémir, heurter, jeter. On parlait de grand, haut, muet, puissant, mais c'était assez... Et puis, le 16e commence à ajouter des mots, jazarde, pitoyable, poignant, jargonné, meuglé, murmuré, tonné, tressauté. Et puis on se rapproche du 17e, il y en a de plus en plus. Rendre à l'oreille, remplir l'âme, on sent le romantisme arriver. Charmer l'oreille, flatter les oreilles, mélancolique, mélodieux, menaçant, redoutable, etc. Et on se rapproche du 18e, on commence à entendre alors là, on est en plein dans le romantique, du plaintif, profond, public, pathétique, petit, impressionnant, ineffable, inouï, ébranlé, se répondre, pépier. Et puis on arrive au 19e, et là, on est dans le début de l'industrialisation, donc on commence à voir arriver des vocabulaires parfois plus négatifs, comme étouffer, entonner, étrangler, geindre, gémir, grésiller, grincer, hennir, hurler, japper, jaser, ça reste assez animalier, mais bourdonner, assourdir, clapoter, etc. Et puis au XXe siècle, on se rend compte qu'aujourd'hui, le vocabulaire nous aide à entendre. C'est-à-dire que si on n'entend pas bien, c'est aussi parce qu'on a du mal à mettre des mots. Si je vous fais entendre un son, je vous dis décrivez-le, ben on va dire c'est un peu fort, c'est pas très aigu, enfin on est un peu embêté. Alors, et on pense pas à dire qu'un son se balance, qu'un son claque, qu'un son coule, qu'un son craque, qu'un son déferle, emplit, implore, salue, sanglote, qu'un son pouf, qu'un son profère, ou qu'un son est impérissable, est heureux, est hésitant, est fluide, qu'un son est frais, est furtif, gracieux, est paresseux, et tout ça.
Mais c'est quoi, on n'ose pas, on est restreint dans notre tête, on n'a pas l'habitude,
qu'est-ce que c'est dommage, parce qu'il y a des auteurs qui, par exemple Jean-Jacques Rousseau, qui dit « garder quelques moments de silence comme un homme qui rêve ». Et puis, bon, alors évidemment, ça c'est de la littérature un peu précieuse, mais il y a une armoire à peine luisante qui a entendu les voix de mes grand-tantes, qui a entendu les voix de mon grand-père, qui a entendu les voix de mon père. Enfin, on s'imagine que les objets ont gardé la mémoire des sons. Le vent profond pleure comme on veut croire. Enfin bon, il y en a plein comme ça. Et je trouve que le vocabulaire est très important. Et vous savez, quand vous mettez un mot sur une odeur, par exemple pour le vin, c'est typique. Hein. Bon, il y a 10 ans, je ne savais pas reconnaître... un grand vin, un petit vin, un jour on vous fait sentir, vous arrivez à sentir, à mettre un mot sur le goût de la banane, le goût de la pomme, le goût de la framboise, le goût de la coulmel, le goût du thym, mais vraiment mettre un mot dessus, parce que quand on vous le fait sentir dans le nez, vous vous dites oui ça je connais cette odeur, mais je saurais pas dire ce que c'est. Et le fait d'arriver à mettre un mot dessus, tout d'un coup on se met à le sentir. Donc faut mettre des mots sur les choses.
Bah, je crois que tu nous as aidé pendant cette heure à mettre
à agrandir
des mots
sur
les choses. Absolument. Un extrait pour se quitter nous et pour laisser l'auditeur sur encore autre chose. Tu veux dire sur quoi on va arriver, Étienne? Tu veux rien dire, Étienne. On vous laisse la surprise. De toute façon, alors, moi, Xavier vous dire, va vous guider tout à l'heure.
Moi, je vais vous dire, on s'en va maintenant. Donc, c'est une sorte de balade, une fresque, en fait, dans laquelle un baryton qu'on a entendu tout à l'heure chanter dans le jardin, puis dans un tunnel. Là, il arrive chez lui. Donc, il rentre chez lui. Il donne à manger à son chat. Et puis, il va se mettre à chanter. Et il se met à chanter de moins en moins fort. Et là, par un mystère de la technique, parce qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite, en fait, on va sortir de sa maison et se retrouver dehors, mais on ne sait pas par où on est sorti.
Merci.
Et c'est la plage 15, évidemment.
Merci Nicolas Frise, merci Caroline Guelmeau, merci Étienne Noiseau et Olivier Gâteau à la technique.
Oh, quel bazar ici. Tout ce ménage est fait.
Le chat. Faut donner où, chat. T'es où? Allez, viens. Viens, Toto.
Eh bien, maintenant, et pour attendre l'exploration musicale et radiophonique à laquelle nous vous convions à 20h30, voici tout de suite Suite sonore en trois mouvements, une composition de Nicolas Frise.
n'a jamais disparu. Enfin, tout ça, c'est pour monter les la source. Ça me rappelle il y a 20 ans, mais il y a la même histoire.
Vous voulez un verre d'eau avec ?
Allez, merci.
Voilà.
Ça va ?
Par contre, t'es pas centré les gouttes, toi ?
Ah, on vient juste de commander.
On devoir laisser les clés.
Oui, mais on n'a pas le temps.
Ah, mais ça va, la boîte. Non, on boit tranquille.
Voilà, merci.
Un express, voilà. Un diabolo.
Mais bois tranquille.
Allez, bois, commande quelque chose. On n'a pas le temps, j'ai le moteur qui tourne.
Mais t'as qu'à tourner. T'as qu'à tourner, avec ta voiture, ça ne peut pas t'arrêter. Tout le monde fait le tour du pâté de maison. Nous, on boit tranquille. Allô,
Francis. Bonjour.
Pas comme moi.
Yes.
Allez, moi je t'en m'en vais, mais à vous. Vous défendez bien, vous, hein, mine de rien. Merci.
Vous y avez quelque chose ?
vibrations sismiques.
Mais non, je t'ai dit qu'elle est trop large, elle passe pas.
Ouais, mais bon, on va pas coucher là-dessus, on a déjà décidé.
Mais t'as vu quoi que ça pète ?
On va coucher là-dessus. Paul, tu veux bien passer le maître ?
Bah oui,
ça.
Ouais. Bah tu l'apportes.
Ouais.
Oui, elle est arrivée.
Ouais.
Bah ici, ouais, 3h30, je te rappelle.
Ouais.
Voilà. Ok, top. Ouais.
Bah alors, t'as faim, toi ?